en quête d'humanité. Nous sommes à l'automne 2019. La pandémie n'est pas encore dans le corps et la tête des gens. Mais le monde ne va pas bien pour autant.
On radiographie un peu tous les êtres humains. Il n'y en a pas beaucoup qui sont adultes finalement.
La société, c'est jamais que les rapports que les gens choisissent d'avoir entre eux. Ce ne sont pas toujours des choix percutants.
C'est à cette période que chacun, dans son parcours de vie, a ressenti le besoin d'aller au-devant d'autres personnes, recueillir des réponses.
Je ne sais pas que je cherche une vie sans combat, mais je ne cherche pas une vie de colère et de rébellion. Je cherche une vie constructive.
Je suis ce qu'on pourrait dire un pessimiste joyeux.
Ce qui me définit aujourd'hui le plus, c'est l'amour.
Moi, je trouve que la curiosité est un bon moteur.
Ils ont parlé de moi à d'autres personnes en disant « on connaît un chaman ».
Waouh ! Est-ce que dans un an, je vais encore voir toute cette beauté ?
C'est dans les vallées du Couserans, à l'ouest du département de l'Ariège, que nous rencontrons 15 habitants de ce territoire montagneux. De la notion d'humanité au sens que chacun donne à la vie, une quête de réponse unique et sincère.
Moi, j'ai confiance en ce qui va se passer, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai confiance.
Je préférerais danser pour le sens de la vie que me battre ou lutter.
Une série en 8 épisodes. 7e épisode, dans la vallée de la Belle-Longue et le Massatois.
Bonjour, je m'appelle Djala Maria Longa, j'habite à Massat, j'ai 39 ans. Enfin, à Massat, entre Biert et Massat exactement. Et me voilà ici, je suis née dans la région, je suis revenue à 23 ans, quand j'étais enceinte de ma première fille, il y a donc 17 ans.
Qu'est-ce qui fait que tu es revenue t'installer en Ariège, vivre en Ariège?
C'est un concours de circonstances. J'ai rencontré mon mari l'autre côté de la terre. Et quand on est revenu, j'étais enceinte. On était partis pendant un an. Moi, je ne me voyais pas revenir en Ariège. Et lui, il était de Grenoble. On est retourné sur Grenoble. Il m'a dit non, je ne peux pas. Le brouillard, etc. L'Ariège, je ne sais même pas où c'est. J'ai bien envie de voir. Et quand je l'ai amené ici, moi, je n'ai rien dit. Il s'est mis à pleuvoir pendant 3 mois. Ça ne s'est jamais arrêté. Bref, on est revenu ici parce qu'il fallait travailler.
Et du coup, c'est comment ton rapport avec le territoire, avec cette région?
Si vous voulez, j'ai grandi ici. Mon rêve de l'enfance, ça a toujours été de m'envoler, de partir, d'aller derrière ces montagnes que j'imaginais mais que je ne connaissais pas. J'en suis partie très tôt, j'avais 16 ans. Donc, mon rêve, c'était vraiment de partir me réaliser, de trouver un boulot, de trouver un amoureux, de faire une famille. Voilà mon petit rêve. Mais mon boulot, comment et quoi? Je n'avais jamais été à l'école et le souci était là, c'est que je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc, quand je me suis envolée, je suis partie d'abord sur Avignon. Ensuite, j'ai travaillé dans les Alpes. Avant de partir dans les Alpes, j'étais partie aussi en Irlande. Donc, c'est là où j'ai appris l'anglais. En fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain en tant que fille au pair. Et après ça, donc, je me suis envolée pour l'Amérique latine. J'ai rencontré mon mari. Donc, très vite, je suis tombée enceinte. Ça faisait partie de mon rêve. Il n'y avait aucun souci pour ça. Par contre, je ne voulais pas revenir ici. Pour moi, le sentiment que j'avais, c'était de revenir en arrière. J'avais l'impression d'avoir échoué dans mon rêve. C'est absurde, mais c'est ce que je ressentais sur le moment.
Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est apaisé par rapport à vivre ici ou
mais complètement.
Au territoire?
En fait, complètement. Le hasard fait bien les choses, dans le sens où il y a 17 ans, je ne voulais pas revenir. Aujourd'hui, paf, 17 ans plus tard, je suis une maman avec 3 enfants. Je me dis souvent, et je me le répète même très souvent, que c'est un endroit idéal pour faire grandir nos enfants. J'aime cette région, c'est comme si j'étais revenue pour régler quelque chose. Je suis revenue ici, je me suis mis à écrire mon histoire, ma vie. Quand je l'ai eu fini, je me suis dit, t'es folle, pourquoi tu te mets à nu devant tout le monde? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu recherches? J'avais pas de réponse à tout ça. Pourtant, je l'ai fait. C'est comme s'il y avait un moteur qui me poussait à le faire. Et en fait, la réponse de tout ça, l'accueil des gens par rapport à mon histoire, et ça m'a fait énormément de bien. Et donc, effectivement, du coup, j'ai fait mes enfants, ils ont grandi, et j'y ai trouvé complètement ma place.
Et alors, qu'est-ce qui est l'idéal ici pour élever un enfant? Qu'est-ce qui te touche dans ce territoire, dans ce paysage?
Pour moi, c'est juste magique de pouvoir faire un bisou le matin à mes enfants. Ils prennent le cartable, ils vont à l'école tout seuls. Il y a le bus qui va les cueillir en bas, que ce soit au collège ou au lycée. Il y a une liberté qui qui est d'abord très facile pour nous en tant que parents, mais aussi pour l'enfant. L'enfant s'épanouit, il grandit dans une certaine liberté, qui je pense en ville, voilà, j'aurais pas cette liberté quand je les vois courir dans la forêt, faire leur cabane, faire les trappeurs. Enfin bref, on est en pleine forêt, donc je sais pas, ça me rappelle aussi peut-être à mon enfance, mais il y a une beauté.
Qu'est-ce que tu me réponds quand je te dis qu'est-ce que c'est pour toi la notion d'humanité ?
Eh bien en fait, pour moi c'est tout. Justement, c'est ce que je retrouve quand je voyage. Parce qu'il y a certains pays où on rencontre directement le cœur des gens. Et l'humanité, elle est là. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, j'aimerais pas voyager. En Amérique latine, ce qui m'a beaucoup touchée, je crois que ça restera un de mes voyages fétiches parce qu'on y travaillait. Donc il y a le voyage mais aussi le travail, donc on est directement avec les gens. Et on travaillait dans un orphelinat. Les enfants avaient tout perdu. Et pourtant, l'humanité était là dans le sens où ils souriaient tout le temps. Et en fait, eux, ils m'ont appris énormément. Ils m'ont touchée. Pour moi, je me disais, faire des cours de morale à nos enfants, il n'y a pas de sens. Ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que dès qu'on peut, on prend sac à dos et on part à l'étranger, dans des pays très pauvres souvent. Il y a peut-être d'autres pays, je ne les ai peut-être pas faits. Hein, mais dans ces pays-là, en tout cas, les portes s'ouvrent très facilement. Et pour moi, c'est énorme. Pour nos enfants aussi.
J'entends là, quand tu parles, une grande curiosité de l'autre aussi.
Oui, de la rencontre.
La notion d'humanité, elle se glisse aussi dans ce...
Oui, je pense.
Ce regard-là vers l'autre.
Bien sûr, il y a un partage. Forcément, quand on est intéressé par l'autre, c'est pas simplement de la curiosité. Vraiment, il y a des choses qui m'intriguent. Et je pense pas que nous, on ait tout compris et qu'on est dans le bon. Et eux, non. À l'inverse, ils m'apportent énormément de choses. Et ça, j'adore me faire bousculer dans mes idées préconçues. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et pour moi, c'est toujours des cadeaux.
Sens pour toi ? Comment tu vois les choses
de ce côté-là ? Eh bien sûr qu'elle a du sens. Pour moi, et je crois que j'en prends vraiment réellement conscience aujourd'hui, je me dis que la nature est trop bien faite. Elle a tout pensé. Elle a tout pensé, elle nous donne toutes ses recettes. On est là, on est avec elle, on vit grâce à elle. Et bien sûr, ça, je sais pas si ça vient du fait qu'on ait grandi avec elle, mais c'est... Mais aujourd'hui, je me dis oui, en regardant sur mon passé, sur ma vie, sur tout ce qui se passe, je me dis, mais oui, il est temps qu'on se réveille un petit peu et qu'on pense à elle autant qu'elle pense à nous, parce qu'elle n'a rien oublié. Donc pour moi, c'est tout le sens de la vie, c'est déjà, c'est incroyable. Souvent, je me dis, mais c'est quand même fabuleux. Comment ça se fait qu'on est là, aujourd'hui ? Comment ça se fait qu'elle nous donne absolument tout ? Elle a pensé, vraiment, elle n'a rien oublié. Et nous, on oublie beaucoup de choses. Donc mon sens à moi aujourd'hui, c'est de faire attention à elle. Alors, tout est relatif. Parce qu'on va me dire, oui, mais vous prenez l'avion, c'est vrai. Alors chez moi, je fais mes petits yaourts, je fais mes compotes, j'essaie d'utiliser le moins de plastique possible, mais je prends l'avion. Donc voilà, il y a toujours... je pense que chacun essaye de faire son bien. Du moins, c'est ce que j'essaye de me convaincre, peut-être. Quand je nous vois tous faire des petits efforts à droite, à gauche, je me dis, mais c'est toujours ça de gagner. Je ne pense pas que... J'ai trop entendu, en fait, des gens qui nous donnent de leçons. En disant non, mais tu fais pas ça, tu fais pas ci, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que c'est à chacun de. On sait au fond de nous ce qui est bien. Bien sûr, je préférais ne pas prendre l'avion.
Le fait d'être là.
Moi je trouve que c'est un miracle. C'est un miracle, c'est juste fabuleux. Des fois je me dis si je dois disparaître demain, mais quelle chance. Quelle chance d'avoir été là, d'avoir vécu ça. Souvent je me dis mais c'est. Pourquoi ? Et donc, dans ma réponse du pourquoi, c'est waouh. En fait, je prends conscience, j'ai vraiment conscience de la chance qu'on a d'être là. C'est juste magique. Pour moi, la vie, elle est magnifique, elle est belle. Quand il y a des gens qui se suicident ou tous les malheurs qu'on peut entendre aujourd'hui, ça m'intrigue beaucoup. Parce que c'est quelque chose que, en finir avec la vie, moi, je ne m'imagine pas en finir avec la vie. Je la trouve tellement belle. Bien sûr qu'il y a des malheurs, il y a des choses... il y a des choses parfois qui sont... voilà, les accidents de la vie. Mais... ça fait partie de la vie aussi. Les périodes de ma vie où qu'ils ont été dures, finalement, quand je les regarde avec des reculs, je me dis heureusement je les ai vécues puisqu'elles avaient un sens. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais plus tard, en regardant sur le passé, on se dit, mais oui, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas compris.
Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine évolution, en pleine transformation. Qu'est-ce que c'est ton regard sur ce monde? Comment tu le sens évoluer? Comment tu le vois évoluer? Est-ce que ça vient te dire quelque chose?
Mettre des mots là-dessus, c'est très compliqué, c'est très complexe. Parce que si j'écoute beaucoup de monde, mais je crois que j'ai ce caractère-là, quand vraiment les gens me parlent ou que je les écoute, j'ai souvent tendance à les comprendre. Alors c'est complètement, des fois absurde, parce que des fois ils sont complètement à l'opposé, mais je peux comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. Aujourd'hui, bien sûr, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Je pense que s'il y a du mouvement, c'est qu'il y a besoin d'un changement. Pour moi, le changement, il est jamais mauvais. S'il y a un changement, c'est qu'il doit y avoir un changement et que comme ça, ça freinait. Il y a des nœuds partout. Il faut que ça aille mieux. Je pense sur plein de points différents. Et ça, c'est chacun qui prend sa prise de conscience, qui avance comme il peut. Si aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, que je fais attention au plastique, etc., ça va dans ce mouvement-là. Comment on n'a pas pensé plus tôt? Nos parents, ils y avaient pensé, mais ils étaient peut-être tellement extrêmes que moi, je faisais pas attention. J'ai pas fait attention avant, mais rien que tout ce qui se passe sur notre planète, il est temps qu'on la respecte.
J'ai entendu ta participation au changement. Et d'un point de vue de l'humanité, comment tu participes à ce changement et comment tu te situes par rapport à cette transformation? Comment tu vois l'humanité évoluer, par exemple? Comment tu sens qu'elle peut évoluer?
Toutes les rencontres qu'on fait, tous les partages qu'on fait, je fais beaucoup de conférences aujourd'hui, de rencontres. Pourquoi j'aime écrire? Je me suis souvent posé la question parce que je m'interroge comment on peut faire évoluer les choses. Et donc, c'est à travers des témoignages, à travers ces petites rencontres. Voilà, c'est plein de petits grains de sable. Moi, j'ai tendance à être positif, donc je vais dans ce sens-là. Au niveau de l'humanité, je pense que on le ressent, les gens, ils ont besoin de l'humanité. Quand vous arrivez toute souriante, il n'y a pas longtemps, mon fils m'a dit, je lui dis, tu sais, c'est bien de dire des fois bonjour aux gens, puis il me répond, il me dit, tu sais, si c'est un inconnu, je ne vois pas l'intérêt de dire bonjour. Et en fait, il m'a interloqué, et j'ai réfléchi à sa réponse. Et après, j'étais le voir, je lui dis, mais je pense que, enfin, moi, en tout cas, s'il y a quelqu'un que je rencontre sur mon chemin qui va me faire un grand sourire en me disant « Bonjour, comment ça va ?» Et bien de suite, c'est comme si j'avais reçu plein de lumière, plein d'amour. Bien sûr, je vais très bien et hop, on repart. C'est contagieux en fait tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a besoin de ce contact qu'on perd petit à petit à cause des réseaux sociaux, à cause des téléphones, à cause de plein de choses finalement. Et si je vais à l'étranger retrouver justement le cœur des gens, c'est que je me dis « Ici aussi, c'est pareil en fait. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on est caché et on est individuel. » À la différence de certains pays où ils vivent encore tous ensemble. Ici, on est assez individuel, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus humain. En fait, l'humanité, on la voit. C'est plein de petites choses. Vous allez dans un spectacle, vous voyez des partages de personnes, un petit sourire entre une mamie et un petit garçon, ou vice-versa. Et en fait, on sent... Je me suis rendu compte, en revenant de mes voyages, quand je suis revenue, je me suis dit, mais c'est fou, parce que je vais chercher ça à l'étranger. Il faudrait que je réussisse, en revenant, à garder cette joie et ce bonheur que je retrouve là-bas, mais chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors de chez moi, je vais sourire à celui que je vais rencontrer en ville, même si c'est à Saint-Girons, dans une... Et puis on va voir. Et c'est vrai que c'est contagieux. Tout ça, c'est contagieux. Parce qu'on s'enferme très facilement, on se rend compte que quand vous êtes à l'étranger, que ce soit dans une grande ville ou dans la campagne, vous êtes ouvert, et vous revenez ici, c'est comme si on devenait des caméléons. Et d'un coup, tac, on re-rentre dans nos habitudes quotidiennes qui fait que, paf, on se ferme.
Djala, est-ce que tu as un rêve?
C'est une grande question que je me pose aujourd'hui parce que je suis arrivée à un point de ma vie où j'avais des rêves. Je les ai réalisés, absolument tous. Et aujourd'hui, je suis dans un point de ma vie où je me dis, mais maintenant que tu as tout réalisé, qu'est-ce que tu veux faire? Alors ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Mais j'ai plus comme avant un rêve auquel je veux vraiment m'accrocher pour y arriver. Je les ai réalisés et du coup, c'est comme si j'étais sur un rond-point et que je ne sais pas vraiment vers où aller. Je me vois rester en Ariège parce que j'aime l'Ariège, mais je me vois aussi partir vers la mer, vers les voyages, vers l'étranger aussi, toujours, mais en ayant toujours mon ancre ici. Donc voilà, j'ai pas vraiment un rêve en particulier. Si ce n'est que mes enfants soient heureux et que tout se passe bien, bien sûr. Et j'espère que ma vie n'est pas toute tracée. J'espère avoir des surprises dans ma vie. Donc je les accueillerai avec grand plaisir.
Et s'il y avait une chose dont il ne faudrait pas que tu t'éloignes, ce serait laquelle ?
Belle question. Parce que du coup, on pense à plein de choses. Je pense que j'aimerais pas m'éloigner des simples valeurs de la vie, qui sont toutes simples. Le respect, la rencontre avec les gens, la sincérité. Si je me perdais, ça serait compliqué. Ça serait très compliqué, c'est une chose qui pourrait me faire peur. Si j'avais plus de but, plus de rêve, plus d'envie, j'aimerais pas que ça m'arrive.
Merci, John.
Merci,
avec plaisir.
Je m'appelle Alain Rébaud, j'ai 66 ans et je suis venu m'installer en Ariège. Je suis né dans le Var. C'est plutôt un lieu de retraite, mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas la retraite, c'est d'être actif.
Ça fait combien de temps que tu es en Ariège ?
4 ans et 1 an en tant que résident permanent. En fait, on devait partir avec ma femme en voyage au Portugal. Nous avons eu la flemme sur le chemin, on s'est arrêté ici et ça nous a plu.
Est-ce que tu connaissais l'Ariège avant?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
J'avais jamais mis.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Le hasard. On s'est arrêté. J'étais à Seix à l'époque. On s'est arrêté à Seix et on a un peu randonné, un peu voyagé, un peu visité. Ça nous a plu.
Est-ce qu'il y a eu une atmosphère? Est-ce qu'il y a eu une ambiance? Il y a eu un coup de cœur, là, ce que j'entends.
Oui, c'est l'Ariège, c'est l'esprit ariégeois qui me correspond tout à fait, quoi. D'abord, il y a la beauté des lieux, la beauté des montagnes, des lacs, enfin, tout le côté un peu touristique, et puis il y a aussi la chaleur des gens, qu'on trouve en général dans le sud-ouest. Moi, je viens du sud-est où c'est quelque chose qui est totalement mort. Le contact facile avec les gens, le partage, tout ça, pour moi, ça n'existe plus. J'ai fait des expériences troublantes, qui m'ont troublé, et qui sont des trucs tout simples. Par exemple, aller dans un supermarché, faire la queue à la caisse, et puis au moment quand c'est ton tour, tu parles avec la caissière qui te raconte que cette année les tomates ont pas bien donné. Tu vois, c'est des trucs complètement un peu futiles, mais il y a de la relation partout. Voilà.
C'est ça que tu appelles l'esprit ariégeois, ouais. Cette idée de relation.
Ouais. Cette capacité de partage, cette créativité aussi dans le partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans plein d'activités créatives, et moi le côté créatif m'intéresse beaucoup. D'autant plus qu'il y a une autre qualité d'esprit qui est ce côté un peu, j'arrive pas bien à le qualifier, marginal, je dirais pas marginal, mais altermondialiste, enfin ce côté, on essaye de recréer une vie un peu différente de ce qui se fait ailleurs, et ça me correspond tout à fait. La notion d'humanité, pour moi, c'est un capital qu'on partage généralement, presque quasi systématiquement, entre ces pauvres représentants de l'espèce qui sont les êtres humains. C'est ça, donc ce capital presque génétique de base, plus, je dirais, la culture. La culture qui peut amener à ce qu'il y a de meilleur dans l'humain, c'est le partage. Si c'est une culture qui est bien intégrée, qui permet à l'être humain de se développer. Voilà ce que c'est pour moi l'humanité.
Si tu élargis un peu, par exemple la culture, qu'est-ce qu'elle apporte à l'humanité du coup?
Oui, c'est ça, c'est le capital génétique plus la culture, ça fait l'humanité. C'est une addition bête et simple, mais moi je résume ça comme ça. Évidemment c'est grossier, mais bon.
Qu'est-ce que ça fait, ces deux choses assemblées? Qu'est-ce que ça donne en termes d'humanité, justement? Comment tu le ressens, toi?
Ben, ça sert ça devrait donner quand la culture est acquise d'une manière suffisamment pénétrante, suffisamment intelligente, ça devrait donner la capacité qu'on est dans un monde qu'on partage. Il n'y a pas d'humanité sans idée de partage, pour moi. Donc, dans un monde où on partage, chacun peut trouver une place qui soit digne.
La notion d'humanité, c'est le partage. Et ta notion du partage,
c'est la dignité qui est offerte à chacun d'être vivant sur cette planète.
Est-ce que tu englobes aussi, du coup, la nature,
La planète. La planète, c'est évidemment principalement la nature.
Et du coup, comment tu ressens ça aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous, en transformation? Comment ça te parle, cette notion de partage digne?
Ben, le partage, le peu qu'il y a n'est pas souvent digne. Le problème principal, c'est ça, en fait. L'allocation qu'on donne à celui qui a peu de revenus, elle lui est pas donnée dans la dignité. Il n'y a rien qui puisse permettre à cette personne de se valoriser, de dire, voilà, j'ai mérité ça par mon expérience, par mon rapport à la culture. Et rien n'est donné qui puisse permettre en général aux gens de se valoriser et de se dire, je mérite d'avoir ma place sur cette planète.
Rien n'est donné par qui alors?
Il y a la société, entre guillemets, ce qui veut rien dire en fait. C'est les rapports. La société, c'est jamais que les rapports que les gens choisissent d'avoir entre eux. Ce ne sont pas toujours des choix percutants.
Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui peut se transformer? Ces rapports qui, pour toi, sont du coup pas tout à fait... Quel mot tu emploierais là, entre les rapports entre humains actuellement?
J'ai l'impression qu'on nous mène, ou on nous a mené, peut-être que c'est en train de changer. En tout cas, il faudrait casser ça. On nous a mené vers des rapports de compétition. Des rapports de compétition, c'est dans une société capitaliste, c'est basé sur la compétition. Si je peux avoir le frigo que l'autre peut pas avoir, je me sens plus grand, plus investi, plus riche, enfin plus tout ce que tu veux, plus méritant que celui qui n'a pas de quoi s'acheter le même frigo que moi. Donc la société de consommation est une société de compétition.
Quand tu parles comme ça, ce qui m'est venu là, c'est est-ce que cette humanité pour toi aujourd'hui, elle serait un peu avec les notions que tu mets dedans, partage et cette dignité, est-ce qu'elle serait un peu en déclin du coup?
Elle est en déclin de conscience, ça c'est sûr. Après, chacun met le déclin à sa sauce. Et pour moi, c'est un déclin d'humanité. Voilà, pour revenir au départ.
Est-ce que tu penses que quelque chose peut changer, peut basculer, peut se transformer? Comment tu ressens ce monde en évolution, cette humanité un peu en déclin?
Je trouve ça profondément triste. Alors, on a le choix entre l'abattement et la révolte. Je suis dans un moment où je choisirai la révolte. Parce que l'abattement, qu'est-ce qu'on fait? On vit chacun dans son coin. Et on meurt à petit feu, chacun dans son coin, en développant sa propre conscience personnelle, égotique, fermée sur soi. Et par contre, si on veut s'investir dans le monde et dire « Attends, ce monde-là me convient pas, il faut que les choses changent », ça peut se faire que dans une forme de révolte, parce que les choses changent quand on les bouge. Et si on les bouge pas, ça reste. Et là, on est sur une voie qui nous mène à l'abîme, d'après moi,
Donc révolte pour toi plutôt.
Ah oui, je préfère la révolte à l'abattement. Oui.
Et elle prendrait quelle forme pour toi cette révolte?
Je suis dans une période où justement, j'essaye de voir un peu. Ce serait peut-être au niveau écologique par exemple, de s'investir de plus en plus, y compris peut-être dans des actions un peu moins tendres et un peu moins bénies, oui, que de dire tiens, je vais ramasser un déchet de plus par rapport à d'habitude. Parce que ça fait peut-être pas changer les choses. Je crois qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus radical à l'heure actuelle.
Tu as une idée de ce que ça pourrait être?
Il me semble, je m'avance un peu, il me semble que des gens qui se regrouperaient et qui partageraient cette conscience de déclin de l'humanité, ce que j'appelle moi le déclin d'une matinée, que ces gens qui pourraient se regrouper autour de cette idée seraient forcément amenés à des actions qui soient non violentes, mais quand même axées sur un côté radical, quoi. On peut pas tergiverser quand on, d'après moi, quand on s'attaque à des fondements de la vie. On peut pas obtenir un consensus mou sur l'extinction des espèces, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un consensus mou? Ça veut dire que bon, on accepte qu'on en perde tant de milliers d'espèces tous les années, mais qu'on fait ensemble pour essayer d'en trouver 200 ou 300 sur les 15 000 qui vont disparaître dans l'année. Il n'y a pas de consensus mou à voir par rapport à ça. Il faut replanter le décor. On négocie pas avec la mort des espèces. On négocie pas avec l'extinction du climat, l'extinction de la planète possible grâce au changement climatique et aux saloperies qu'on nous impose.
Ça irait jusqu'où pour toi la radicalité?
J'irai pas plus loin que la non-violence. Mais il faut être présent quand même. Il faut dire on est là. Il faut taper du poing sur la table et dire non. Ça je peux pas. Je dirais plutôt que c'est la vie qui me donne du sens. C'est la vie qui me nourrit et c'est la vie qui fait de moi cet être parfois intéressant, parfois bête, parfois stupide, mais bon, qui essaye son petit chemin sur cette planète.
Tu dis c'est la vie qui me donne du sens, donc il vient d'où? Comment tu l'entends? Comment tu le vois? Comment tu le captes?
Il dit me vient d'où? Je vais te dire un truc un peu particulier. Je pense que c'est un truc que j'ai à la base, tu vois, ce sens de vouloir être vivant sur cette planète, parce que j'ai failli mourir 3 fois à la naissance, tu vois, pour différentes causes, un sens qui s'est mal passé. Et je pense que très, très inconsciemment, très enfoui, il y avait cette radicalité déjà de dire non, je vais pas mourir, je vais m'accrocher là, parce que c'est là que je veux être. Donc ça, c'est le côté un peu psychologique, un peu de bistrot, mais bon. Je pense qu'il y a un démarrage comme ça, et après, par exemple, tu vois, je fais du théâtre. Donc, j'anime des ateliers, j'écris des pièces de théâtre. C'est une manière de faire vivre les choses, de faire vivre des personnages, faire vivre des gens, mais faire de la vie quand même. Tu vois, à partir du niveau artistique, tu crées de la vie. Ben, c'est là-dedans que je suis. Je crée de la vie parce que la vie me va bien. Être dans le flux. Accepter, se laisser aller, être dans le flux de la vie et respecter la vie. Le drame, c'est qu'on est obligé d'imposer la vie maintenant. Oui, ça, c'est bizarre. On est obligé de revendiquer que la vie doit être vivante, tu vois. C'est un truc fou. C'est que tout conduit à la mort, tout conduit à l'effacement des choses. On est obligé de revendiquer que la planète a droit de vivre, qu'on a droit de respirer. C'est absurde. On est dans un monde totalement absurde.
Revendication, elle est intéressante, ce mouvement il est intéressant, ce que tu dis là, ça veut dire que du coup toi en tout cas t'es bien vivant et tu sens bien ce sens de la vie et tu t'impliques dans ce mouvement là
J'essaye d'être bien vivant, hein. J'essaye, c'est un but, hein. c'est pas un état permanent, hein. C'est un but, c'est un axe dans lequel on essaye d'avancer, c'est pas petit à petit, oui.
Est-ce que tu as un rêve?
Est-ce que j'ai un rêve? C'est difficile de répondre à cette question parce que soit on est dans le vœu pieux, tu vois, ça a aucun sens, genre je voudrais que tous les gens soient heureux, tu vois, le truc, ça a aucun sens, ça c'est pas un rêve, c'est un vœu pieux. Soit quand il faut le cristalliser et le ramener à quelque chose de précis, le rêve que j'ai, tu vois, c'est de vivre ici dans ce cadre, de continuer à vivre ça avec ma femme, qui est très importante pour moi, et de pouvoir continuer à créer, voilà, créer ensemble, à faire de la vie.
Et là, il me vient une question, si quelqu'un venait te voir, et que ce quelqu'un soit en recherche de sens, justement, qu'est-ce que tu lui dirais?
Fais. tu veux faire de la peinture, fais. Et je renverserai le problème. Quelqu'un qui n'oserait pas faire de la peinture, je suis pas peintre du tout, hein, donc qui n'oserait pas faire de la peinture, je lui dirais fais de la peinture. Et je renverserai le problème, je lui dirais mais qui es-tu pour ne pas faire de la peinture? Qui prétends-tu être pour oser ne pas faire de la peinture alors que tu portes ça en toi? Vas-y, fais.
Il ne faudrait pas que tu t'éloignes, ce serait laquelle?
De la vie. On peut s'éloigner de la vie. C'est, pour moi, si tu te réveilles le matin, que tu te regardes dans le miroir et tu te trouves mort, tu te trouves fade, éteint, t'es pas dans la vie. Donc c'est bien, c'est un baromètre, hein, le miroir. Tu dis, bon, là il y a mauvais temps, faut se bouger. Ou alors sortir le parapluie, en temps d'épreuve.
Parole ou un texte ou une chanson ou un objet, quelque chose qui te définit là, aujourd'hui, tel que tu te sens, ce serait quoi?
Une parole?
Ou autre chose?
Ouais, simple. Une inspiration. Toi, c'est un truc simple, inspiration. Toi, tu inspires, mais en même temps, c'est aussi l'inspiration artistique. J'inspire. En inspirant, je suis inspiré. Alléluia. Pour rien au monde, je retournerais. J'étais à Aix-en-Provence, on habitait avec ma femme à Aix-en-Provence. Pour rien au monde, je retournerais là-bas. Ici, c'est, je dirais pas c'est le paradis, mais c'est mon paradis. Tu vois la différence? C'est un endroit où je peux évoluer sans peur, sans crainte, avec un bonheur tous les jours renouvelé.
Merci.
Merci à Maria, Bart, Marie-Hélène, Michel, Alain, Marion, Claude, Méline, Anselme, Nelly, Pierre, Jala, Yves, Karine et Marc.
Merci à Jean-François, Thierry pour leur participation musicale.
En quête d'humanité, une collecte de paroles par Marie Chandelon et Christian Lebon. Prise de son, montage et réalisation, Christian Lebon.